Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Nous allons regarder ce matin les versets 22 et 23, mais nous allons lire à partir du verset 20 pour nous remettre dans le contexte. Jude, nous prenons la lecture au verset 20 et voici la parole de Dieu. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillé par la chair. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un reportage ou si vous avez assisté à un sauvetage en montagne ou en mer. On voit ces hommes, ces femmes qui se sont préparés à accomplir une mission et qui affrontent toutes sortes de situations dangereuses pour aller sauver quelqu'un. Et quand on devient un membre de l'Église de Jésus-Christ, Jude nous dit que nous devenons membres volontaires dans une mission de sauvetage d'un autre genre. Chaque croyant, chaque chrétien est appelé à être impliqué dans cette mission de recherche, de restauration, de croyants qui sont affaiblis ou même égarés. Et dans les deux versets que nous voulons considérer ce matin, les versets 22 et 23, Jude nous donne des instructions au sujet de ce que nous pouvons appeler une mission de sauvetage spirituel à laquelle nous sommes appelés à participer. Et on va regarder ensemble ces instructions sous trois points. Le premier point, avoir de la compassion pour ceux qui doutent. Ces deux versets font partie de ce que Jude veut dire quand il a exhorté au début de sa lettre les croyants à combattre pour la foi. Dans la dernière fois, dans les versets 20 et 21, nous avons vu l'appel à combattre pour la foi était centré sur la responsabilité des croyants à veiller sur eux-mêmes, sur leur vie spirituelle, sur leur nourriture spirituelle, sur leur persévérance. Et maintenant, Jude tourne son attention vers les autres, vers ceux qui sont dans l'assemblée, mais qui ont succombé, au moins en partie, à cette dangereuse influence qui s'était infiltrée dans l'Église par ces faux enseignants. Et Jude commence au verset 22 en disant « Reprenez les uns, ceux qui contestent. » Alors le verbe « contester », le verbe traduit par « contester » ici, a une signification qui est un peu trop forte. Alors c'est vrai que c'est le même verbe que l'on trouve au verset 9, quand l'archange Michel a contesté avec le diable. Mais ici, le verbe, il est sous une autre forme. Et sous cette autre forme, il a un sens qui est moins fort. D'autres traductions nous permettent de saisir cela. La version Colombe, par exemple, dit « Ayez pitié des uns de ceux qui hésitent ». D'autres versions, françaises et anglaises, disent « Ayez de la compassion pour ceux qui doutent ». Et d'ailleurs, ce verbe sous cette autre forme dans l'original, il y a cette idée d'hésiter entre deux points de vue, entre deux mentalités. Et le mot qui est utilisé exprime cette idée de dualité, de double mentalité, de conflit entre deux choses. Mais on ne doit surtout pas confondre ce dont Jude parle ici, le doute ou l'hésitation, avec quelque chose qui est plus grave. Le doute n'est pas la même chose que l'incrédulité. L'incrédulité est une action de la volonté qui refuse de croire, qui refuse d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Le doute, lui, va se traduire par le fait de poser des questions ou d'exprimer une incertitude, et ça peut même être au sujet de la foi. Il est vrai que le doute, si il est dissimulé ou si on l'ignore, peut être le précurseur de problèmes dans l'expérience chrétienne. Mais le doute qui est reconnu, qui est confessé, peut être combattu, peut trouver ses réponses dans la parole de Dieu et peut amener à une expérience croissante dans la vie chrétienne. Le doute n'est pas l'incrédulité. Ce n'est pas le scepticisme. La plupart des chrétiens, peut-être même tous les chrétiens, connaissent des périodes de doute à un moment ou à un autre, que ce soit une lutte dans leur propre foi ou sur la question de l'assurance, que ce soit avec certains aspects de la foi chrétienne ou au sujet de la vision chrétienne du monde. La Bible elle-même nous donne une multitude d'exemples de croyants qui, tout au long de l'histoire, ont lutté avec ce même genre de choses et ont été en proie au doute. On peut penser à Asaph, par exemple, dans le psaume 73. Il voit le succès des incrédules. Et de l'autre côté, il voit les souffrances des justes. Et cela le pousse à vaciller dans sa confiance dans le Seigneur. Psaume 73, verset 13, par exemple. « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment était là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » On peut penser à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été jeté en prison. Et il commence à douter de sa propre conviction au sujet de l'identité du Seigneur Jésus-Christ en tant que Messie. En Matthieu 11, versets 2 et 3, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors que c'est le même Jean-Baptiste qui, quelques années auparavant, avait baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà qu'il est en proie au doute. Matthieu 28, verset 17, on lit au sujet des disciples qui sont dans la présence même du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et Matthieu 28, verset 17 nous dit, « Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » Voilà les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ qui avaient entendu des choses merveilleuses, vu des choses indescriptibles. Ils ont mangé avec lui sur la plage. Et Matthieu nous dit que quelques-uns eurent des doutes. On ne doit pas être surpris, donc, de rencontrer des croyants qui souffrent de doutes dans la foi. En particulier dans notre monde occidental, où notre foi est attaquée sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan social, de toutes parts, et à chaque moment. Et Jude, ce demi-frère du Seigneur Jésus-Christ, qui a connu le Seigneur Jésus dans son enfance, qui a grandi avec lui, mais qui n'a cru au Seigneur Jésus-Christ qu'après la résurrection du Seigneur Jésus. Jude nous exhorte à reprendre avec compassion ceux qui doutent. L'expérience du doute est très naturelle. Ça fait partie des effets persistants de la chute, pas seulement dans nos cœurs, mais aussi intellectuellement dans nos esprits. C'est une réalité, c'est la réalité du péché qui demeure encore en nous, qui va se manifester dans ce genre de faiblesse, de vacillement qui nous arrive de temps en temps. Jean Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne, parle de l'expérience vécue de la foi dans cette vie par le chrétien. Et il écrit en affirmant que la foi doit être sûre et certaine. Nous ne prétendons pas qu'elle ne sera pas l'objet de doutes et que la paix qui l'accompagne ne sera pas troublée par des inquiétudes. C'est une réalité. Et donc, Jude nous exhorte à reprendre avec compassion ceux qui doutent. Malheureusement, le doute et les inquiétudes que certains croyants peuvent avoir sont des choses qui sont parfois très mal vues dans certains milieux ou très mal comprises. Un commentateur explique à quoi cela peut ressembler. Il dit dans certains milieux, il y a un tel zèle pour la doctrine pure qu'il est très difficile pour les gens d'admettre qu'ils ont des questions et des doutes. Et il est difficile de trouver un ami qui va s'asseoir avec eux pour les écouter et parler de ces choses. Il n'est pas possible pour un croyant qui lutte avec le doute de trouver un meilleur accueil auprès des incroyants. Parce que dans ce cas-là, il va se retrouver avec des doutes qui sont encore plus renforcés. Jude nous exhorte, reprenez avec compassion ceux qui doutent. Il y a des moments où la foi authentique de véritables croyants peut être secouée, parfois même de manière profonde. Et c'est dans ces cas-là que la compassion est requise. C'est dans ces cas-là que l'on doit apporter le réconfort et la force. Un commentateur explique, ne soyez pas durs. Ne pensez pas que derrière chaque question, un hérétique en herbe se prépare à émerger. Soyez utiles, investissez dans les relations. Soyez connus pour votre patience et votre amour. Ayez de la compassion. Voilà ce qu'implique combattre pour la foi. C'est intéressant de noter, quand on pense à la dureté du langage de Jude contre ceux qui s'étaient infiltrés dans l'Église avec un faux évangile. Et on le voit maintenant dans un contraste frappant avec cet appel à la compassion, à la douceur envers les croyants qui doutent. Ne les condamnez pas, ne les jugez pas. Aidez-les, reprenez-les avec compassion. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné l'exemple et à plusieurs reprises, il a aidé ses disciples qui étaient en proie au doute. L'exemple auquel on pense le plus rapidement, c'est Thomas. D'ailleurs, il y a même une expression, je ne pense pas qu'elle existe en français, mais en anglais. On parle de Thomas, celui qui doute, Thomas the Doubter. Et un commentateur explique ceci. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus fatigant et provocateur que la conduite de Thomas. Mais il est impossible d'imaginer quelque chose de plus patient et de plus compatissant que le traitement de notre Seigneur de ce disciple faible. Il le traite selon sa faiblesse, comme une infirmière douce traite un enfant malade. Mais pour être clair, Jude ne dit pas que le doute est un élément positif de l'expérience chrétienne. Jude ne célèbre pas le doute comme une vertu. Dans certains milieux où les églises peuvent être dures envers les croyants qui doutent, il peut y avoir une réaction exagérée de la part de ces croyants. Et cette réaction devient une célébration du doute. Nous ne voulons jamais être une église qui traite ceux qui luttent avec le doute comme des réprouvés. Nous ne voulons pas être une église qui célèbre le doute comme un genre de vertu chrétienne. Non, nous voulons être une église qui encourage ceux qui luttent avec le doute. Nous voulons être honnêtes à leur sujet, afin que ces doutes soient abordés, traités, que les croyants soient aidés, afin que leur foi puisse croître et que les croyants qui luttent puissent devenir des croyants forts quand leurs doutes auront reçu leur réponse dans la parole de Dieu. Mais ce qui est derrière la prescription de Jude, c'est le moyen par lequel des croyants qui vacillent et qui doutent sont appelés à surmonter leurs doutes en étant fortifiés par des croyants qui sont plus forts dans leur foi. Ce sont les plus forts qui doivent prendre soin de ceux qui sont plus faibles. Et cela veut nous dire que nous devrions tous être en train de devenir, de rechercher à devenir des croyants capables d'aider d'autres à traverser ces luttes dans la vie chrétienne. Une approche aimante, dit un commentateur, un sens de la bonne occasion et une position chrétienne soigneusement réfléchie. Voilà les qualités requises pour celui qui veut aider un autre dans ses doutes, dans ses luttes. Nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Nous attendons la pleine révélation de cette miséricorde au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à montrer de la miséricorde, montrer le réconfort qui construit, qui restaure ceux qui sont faibles, afin qu'ils puissent édifier dans leur foi. Reprenez avec compassion ceux qui doutent. Deuxième grand point, avoir de l'empressement pour ceux qui sont en grand danger de tomber. Et on lit au début du verset 23, « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Jude, semble-t-il, s'adresse à une autre catégorie de personnes dans l'Église qui sont allées un peu plus loin que ceux qui doutent, qui hésitent. Il ne s'agit plus de croyants qui vacillent, qui hésitent entre deux positions. Mais dans la situation à laquelle Jude s'adresse, ces personnes ont succombé à l'influence des faux enseignants, à tel point que ces personnes se retrouvent dans la catégorie opposée, dans l'incrédulité. Ils ont succombé à l'immoralité, cette immoralité qui est accordée par ces faux enseignants et leur perversion de la grâce. Ils sont maintenant tellement pris au piège par cette immoralité que, en apparence, ils agissent comme s'ils n'avaient jamais été de vrais croyants. Et Jude nous dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est un vocabulaire de rédemption, un vocabulaire de salut. Jude nous exhorte à être engagés dans un acte de rédemption, de sauvetage envers ceux qui sont en danger imminent de jugement. Alors bien entendu, nous savons que c'est Dieu seul qui sauve, par la foi en Jésus-Christ. Mais ce que Jude dit ici, Jean Calvin l'explique très bien, il dit l'expression « sauvez-en » est transférée aux hommes, non pas qu'ils soient les auteurs du salut, mais les ministres du salut. Les ministres du salut. Et chaque croyant dans l'Église est appelé à être un ministre du salut, dans cherchant à ramener les autres. Le langage de Jude indique clairement que le danger est imminent et le secours nécessaire. Le frère de Jude, ou le demi-frère de Jude, l'apôtre Jacques, écrit ceci en Jacques 5, versets 19 et 20. Il dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Il sauvera une âme de la mort. » Jude nous dit, c'est comme des arrachés du feu. Alors l'idée ici, ce n'est qu'ils ne sont pas encore dans le feu du jugement éternel. Ils sont au bord du gouffre, à la limite, sur le point de tomber. Jude ne considère pas que le jugement de Dieu est un événement futur qui est très loin et donc qui n'est pas pertinent. Non, il le considère comme quelque chose qui est là rapidement. Ces personnes sont en danger imminent de rencontrer un destin terrible. Et Jude nous dit « sauvez-en en les arrachant du feu ». C'est un langage qui exprime un sentiment d'urgence. Quelque chose doit être fait rapidement. Quand on regarde les sauveteurs, quand ils reçoivent un message d'urgence, ils ont déjà réfléchi à leur plan. Ils n'hésitent pas à entrer en action très rapidement. Un commentateur écrit « Comme l'Église est responsable de se bâtir sur le fondement de la foi, comme on a vu au verset 20, de même aussi des mesures rapides et drastiques doivent être prises pour sauver ceux qui se sont égarés. Les membres errants ne doivent pas être simplement congédiés, mais ils doivent aussi être recherchés, délivrés de l'erreur dans laquelle ils sont tombés. » C'est une opération de sauvetage qui est urgente quand il s'agit de ceux qui sont sur le point d'abandonner la foi, qui sont partis dans l'erreur. Il faut réfléchir et prier sur le genre d'action que nous devons entreprendre. La question n'est pas de savoir si oui ou non nous devons agir, mais comment faire et donc quand le faire. Mais le langage de Jude nous aide à réaliser que tout espoir n'est pas perdu. Tant qu'ils sont encore en vie, il y a de l'espoir, il y a la possibilité de les arracher du feu. Il est encore possible pour des personnes qui sont dans un péril spirituel réel d'être sauvées en étant arrachées du feu. On voit cela parce que le langage que Jude utilise vient de l'Ancien Testament. En Amos 4, verset 11, par exemple, le prophète dit, parlant de la part de l'Éternel, dit ceci, « Vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. » Mais il est plus probable que Jude fait référence au prophète Zacharie. Il a déjà fait référence à ce prophète un peu plus tôt dans sa lettre. Et ici, il fait référence à ce passage en Zacharie 3, verset 2, qui dit ceci, « L'Éternel dit à Satan, en parlant de Josué, le souverain sacrificateur, il dit, « N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Il y a de l'espoir dans le langage du prophète et dans le langage de Jude en faisant référence à cela. Nous devons reprendre ceux qui se détournent de la vérité et faire ce que nous pouvons pour les arracher du feu. Mais un troisième élément dans l'appel de Jude, le troisième grand point, avoir une compassion mêlée de crainte pour ceux qui vivent dans le péché. Et c'est la deuxième partie du verset 23. Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il y a des croyants qui vivent dans le péché, sans doute dans ce péché d'immoralité qui a été introduit par ces faux enseignants qui ont perverti la grâce de Dieu. Mais notez que Jude qualifie la pitié que nous devons manifester en disant qu'elle doit être mêlée de crainte. Et la suite de la phrase nous aide à comprendre ce que Jude veut dire. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Le terme qui est traduit par tunique ici fait référence à ce vêtement qui est porté au plus près de la peau. On parlerait, nous, de sous-vêtements. C'est le vêtement qui est souillé le plus facilement. Et Jude utilise aussi le terme « chair » dans le sens du Nouveau Testament, c'est-à-dire qui fait référence à la nature pécheresse et ses désirs mauvais. Et on a donc ici l'idée qu'il y a un danger réel de pollution que le péché apporte avec lui, en particulier le péché d'immoralité. Dans le cas de Jude, Un danger que cela présente à la fois pour celui qui est pris dans le péché, mais aussi pour celui qui cherche à la restaurer. Un commentateur écrit « Quand on montre de la miséricorde à ceux qui pêchent, il est tout à fait possible de se faire entraîner dans leur péché. Le péché est suffisamment trompeur pour que ceux qui essaient d'aider les autres puissent eux-mêmes être piégés. » Des sauveteurs en mer, par exemple, savent qu'ils doivent faire attention que la personne qu'ils veulent sauver de la noyade ne s'agrippe pas à eux de telle façon à les faire couler. Ils vont utiliser des planches de surf ou des chiens comme le Terre-Neuve. Jude est moins concerné ici avec l'étendue de l'égarement de ceux que nous cherchons à restaurer qu'il n'est avec notre attitude envers ceux qui se sont égarés. Un commentateur dit « Ce verset est une sorte d'avertissement à ceux d'entre nous qui sont engagés dans l'œuvre, dans cette œuvre de miséricorde. Aucun de nous n'est à l'abri de la tentation. En un clin d'œil, un acte de miséricorde ou de salut nous met non seulement en contact avec le mal, mais aussi dans la présence et la plénitude de désirs déchus. Nous devons donc faire attention, montrer de la miséricorde, oui, envers le pécheur, mais dans la crainte de Dieu. Nous ne devons pas commencer à aimer en secret pour nous-mêmes ce que la miséricorde essaye de balayer dans la vie des autres. On doit aimer celui qui est tombé dans le péché, mais on doit haïr son péché. Donc, quelque chose qui rejoint ce que l'apôtre Paul écrit en Galates 6, verset 1. « Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Mais il rajoute « Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Galates 6, verset 1. Il y a un besoin de maturité spirituelle, mais aussi de vigilance, même chez ceux qui ont une maturité spirituelle, envers ces choses qui ont le potentiel de tenter la chair et le péché qui reste encore présent en chacun de nous. Jude veut que nous reconnaissions le danger qui est présent et que nous agissions en conséquence. Méfions-nous d'une curiosité injustifiée ou d'une fascination pour les péchés dans lesquels les autres se sont tombés. Dans notre ministère envers les autres, quel qu'il soit, nous ne devons jamais prendre le péché à la légère. Nous devrions en parler pour ce qu'il est. Et de faire cela, c'est avoir pitié, c'est avoir de la miséricorde pour l'autre, tout en haïssant, même jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est une des implications que Jude nous donne ici, s'il nous révèle la véritable nature du péché, en particulier pour ceux qui s'y aventurent ou ceux qui s'y trouvent en plein dedans. La miséricorde ne peut pas signifier approuver ou donner une sorte d'acceptation du péché. Non, nous devons aimer le pécheur avec honnêteté et lui dire « tu joues avec le feu ». C'est aussi un rappel pour nous de la réalité du péché qui reste encore en nous et du besoin que nous avons de nous protéger de la tentation, de tout ce qui peut nous tendre un piège. Mais c'est aussi une motivation pour montrer de la pitié, montrer de la miséricorde, parce que nous savons combien il est facile pour quelqu'un de tomber dans le péché. Le péché est une chose terrible. Le péché est destructeur. Il dévore les gens, il dévore les familles, il dévore même les églises. Nous devons prendre garde. Notre miséricorde, donc la pitié que nous manifestons aux autres, se manifeste dans la façon dont nous désirons désespérément que ceux qui sont impliqués dans le péché soient sauvés. Cela implique aussi comment nous mettons les autres en garde contre le péché. Comment nous évitons nous-mêmes de tomber dans ces péchés. Mais Jude ne nous décrit pas à quoi pourrait ressembler cette miséricorde en action. Il y a d'autres passages dans les Écritures qui nous guident dans ce domaine. On a cité Galates 6, verset 1, par exemple, et d'autres passages. Jude ne le fait pas. Les occasions, les circonstances peuvent varier. Parfois, il n'y a pas beaucoup de possibilités de participer aux efforts qui sont déployés pour rechercher, restaurer les autres. Parfois, c'est la personne qui ne nous permet pas d'aborder le sujet. Elle refuse d'écouter, elle refuse d'entendre. Il y a peut-être des moments où cette miséricorde pour les autres ne peut s'exprimer que par une prière fervente pour eux. Et c'est ce que nous devons avoir. C'est ce que dans le combat dans lequel nous devons être engagés, de ne cesser de prier pour les autres, en particulier pour ceux qui sont tombés, ceux qui doutent ou ceux qui sont allés un peu plus loin. Et pas seulement pour nous-mêmes, pour ceux que nous connaissons, mais nous joindre avec les frères et sœurs pour prier pour ceux à qui, eux, ils veulent manifester de la miséricorde. Jude nous appelle donc à avoir une pitié mêlée de crainte, sachant que Dieu est toujours capable de sauver et qu'il veut sauver. Quand une mission de sauvetage est planifiée, même les sauveteurs savent qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et dans nos plans d'annoncer l'Évangile, de témoigner autour de nous, de chercher à restaurer quelqu'un, nous ne connaissons pas toujours les résultats. Mais nous pouvons nous engager dans cette mission avec confiance, parce que nous savons que le Seigneur Jésus qui nous envoie dans cette mission est aussi le bon berger et qu'il ne permettra pas à aucune de ses brebis de périr. Il l'a dit lui-même en Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » Et notre rôle en tant que ministre du salut est de diriger les regards vers le bon berger, vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas sauver quelqu'un. Nous devons diriger les regards vers le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Dans le passage de Zacharie 3, auquel on a fait référence tout à l'heure, il y a une autre image que nous devons voir. Josué, nous l'avons vu, est décrit comme un tison arraché du feu, mais il est aussi décrit comme se tenant devant l'Éternel avec des vêtements sales. Et en Zacharie 3, versets 3 et 4, on lit « Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Et voilà le réconfort glorieux qui est vrai de chaque croyant. Chaque vrai croyant est comme un tison qui a été arraché du feu par la miséricorde souveraine de Dieu. Nous avions par nature des vêtements souillés, sales. Par la grâce de Dieu, il a enlevé ces vêtements sales pour nous donner des vêtements purs, des habits de fête. Nous avons été lavés dans le sang de l'agneau. Nos vêtements souillés ont été remplacés par des habits parfaitement purs, les vêtements de la justice parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jude parle d'être restauré, d'être sauvé, d'être arraché du feu, cela ne veut pas dire établir une vie plus juste, devenir acceptable pour une église. Non, être arraché du feu, être restauré, être sauvé, c'est faire demi-tour. C'est croire dans la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ qui lave tous les péchés, tous les vêtements sales, même le vêtement le plus sale. Même le pire des pécheurs peut trouver grâce auprès du Seigneur Jésus-Christ s'il vient à lui dans la repentance et la foi. Personne n'est trop sale que le Seigneur Jésus ne peut pas laver, que le Seigneur ne peut pas restaurer dans une vie nouvelle. Et chaque croyant sait que cela est vrai. Nous avons nous-mêmes connu le pardon total de nos péchés, un changement de vêtements. Nous sommes maintenant habillés du vêtement de la justice parfaite de Jésus-Christ à la place de nos vêtements souillés. Apocalypse 7, verset 14, décrit les croyants de cette manière. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour ça que chaque croyant peut déjà ici-bas et un jour dans la gloire de manière parfaite se réjouir, chanter les louanges de Dieu pour son salut si parfait et son sauveur si merveilleux. C'est parce que nous avons connu cette grâce, parce que Dieu nous a fait miséricorde et que nous avons connu cela, que nous devons manifester de la miséricorde envers ceux qui doutent. De montrer de la compassion, de chercher à restaurer ceux qui sont sur le point de tomber, mais de le faire avec crainte, en aimant celui qui est tombé dans le péché, mais en haïssant son péché, et de le faire pour la gloire de Dieu. Que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.